Jeanne serrait son sac contre elle. Est-ce qu'il est bien fermé? Oui, il est bien fermé. On n'est jamais assez prudent. Une station, une autre. Et la sienne, enfin. La terre ferme, à nouveau. Et le marathon qui recommence. Ascension vers le soleil, ruée vers la lumière du jour. Une rue pleine de gens et de voitures, de bruit et de désordre matinal. Au pas de course, Jeanne arpentait le trottoir, évitant le contact, frôlant mais jamais ne touchant. Elle étrennait une nouvelle paire de chaussures et avait déjà mal aux pieds. Elle détestait porter de nouveaux vêtements, de nouvelles chaussures. Comme elle détestait changer de coiffure. D'ailleurs, elle n'allait jamais chez le coiffeur. C'était sa mère qui lui coupait les cheveux. Longs et droits, de couleur châtain foncé, ils étaient invariablement attachés en queue de cheval. Elle continua à marcher, ravalant sa souffrance, avec l'impression que tout le monde regardait ses pieds. « J'aurais dû remettre mes vieilles godasses. Est-ce que mon sac est bien fermé ?»« Oui, il est bien fermé. » Enfin, elle pénétra dans le grand commissariat. Retrouver son univers familier, c'est rassurant, même s'il s'agit d'un commissariat. Elle traversa le hall d'entrée, si grand et pourtant si sombre. Pas assez d'ouverture sur le ciel. Cruelle absence de lumière. Une atmosphère peu engageante qui avait beaucoup angoissé Jeanne les premiers temps. Elle s'était dit que c'était peut-être fait exprès. Exprès pour impressionner ceux qui avaient le malheur d'y échouer. À moins qu'il ne s'agisse simplement d'une erreur de conception. Mais récemment, le grand patron, attentif au moral de ses troupes, avait décidé de procéder à quelques aménagements pour remédier à ce flagrant délit d'inhospitalité. Une peinture jaune pâle sur les murs, dont l'odeur chimique refusait encore de s'évaporer. Des éclairages plus tamisés, quelques boiseries. Et ça et là, témoins immobiles, une dizaine de plantes en plastique qui faisaient plus vrai que nature. C'était toujours aussi sombre, mais tout de même plus accueillant. Au fond du hall, un guichet et sa file d'attente. Les plaintes du matin, voitures disparues pendant la nuit, portefeuilles et sacs envolés dans le métro. Quelques cris, quelques impatiences, quelques pleurs. Des hommes en tenue, aux visages éprouvés, des regards fatigués, usés par la routine. On pouvait rêver mieux comme lieu de travail. Pourtant, Jeanne commençait à aimer cet endroit. Parce qu'il était assez vaste pour passer inaperçu, assez déshumanisé pour éviter de s'y attacher le soir venu. Elle emprunta l'escalier et monta au deuxième étage, là où se trouvait son bureau. Un an déjà qu'elle avait intégré les effectifs de la police nationale, mais pas comme elle l'aurait voulu. Impossible de devenir commissaire ou même lieutenant. Tout ça parce qu'elle portait des lunettes. Parce qu'elle était myope. Pourtant, pour être flic, paraît que c'est le flair qui compte, pas la vue. Mais bon, il y a des injustices comme ça. Des injustices plein la vie. Alors, elle s'occupait des affaires générales, gestion des carrières, congés, courriers. Et les enquêtes, elle se contentait de les suivre de loin, telle une spectatrice privilégiée. Elle entra au secrétariat et salua ses trois collègues, Monique, la chef de service, Géraldine et Clotilde. Quatre bureaux encombrés de piles de documents, quelques plantes vertes rachitiques qui appelaient à l'aide en aspirant la lumière artificielle comme un nectar salvateur. Une moquette rongée par les années, la peinture craquelée des murs, entre les affiches de propagande pour la police nationale, la grande famille. L'effort de rénovation n'était pas encore arrivé jusqu'ici. Bientôt, avait promis le Pacha. Un courant d'air s'invitait par la seule fenêtre, apportant avec lui les bruits de la ville. Moteurs en surchauffe dans les embouteillages, concerts de klaxons. Le sport national à Marseille. Avec le foot, bien sûr. Jeanne s'installa bien vite dans son fauteuil et fit glisser son blouson sur le dossier. Elle prit ensuite une clé dans la poche de son pantalon et, avec des gestes millimétrés, elle ouvrit son tiroir pour en sortir un stylo bleu, un rouge, un crayon, une gomme, une agrafeuse et une calculatrice. Le téléphone portable extirpé du sac, déposé à gauche du calendrier, là où était sa place, même s'il ne sonnait jamais. Le sac lui-même, enfermé à double tour dans un autre tiroir. Et enfin, la clé qui retourne dans la poche. Alors seulement, elle put allumer son ordinateur. Rituel immuable du matin sous les regards amusés de ses collègues. Jeanne et ses petites manies. C'est à cet instant que la porte du bureau s'ouvrit et que le capitaine Esposito entra. Jeanne sentit son cœur se tordre, son sang bouillir dans ses veines. « Salut les filles » lança-t-il. Comme chaque matin, il faisait le tour de tous les services pour dire bonjour. Simplement « bonjour ». Un des seuls à se donner cette peine. Avec le grand patron, bien sûr. Et pour Jeanne, à la fois le meilleur et le pire moment de la journée. Le meilleur parce que le capitaine Fabrice Esposito était toujours parfaitement rasé. Parce qu'il avait de beaux yeux verts et un sourire d'une blancheur polaire. Grand, mais pas trop. Musclé, mais pas trop. Parfaitement proportionné. Parfaitement habillé. Le pire, parce que Jeanne n'arrivait jamais à lui dire autre chose que « bonjour ». Même pas « comment ça va ?». Une bise à chacune des filles du service et il repartait aussi vite qu'il était venu. Rien ne le retenait ici. Première et sans doute seule émotion forte de la journée. Jeanne enleva ses lunettes et les nettoya à l'aide d'une lingette imprégnée. Geste répété environ 20 fois par jour. Puis elle se mit au travail, le visage du capitaine Esposito ondulant encore dans son esprit. Son parfum délicat flottant encore dans la pièce. Le même chemin en sens inverse. Quelques marches à descendre, les néons qui prennent le relais de l'éclat du jour. Mettre son ticket dans l'appareil et courir vers les profondeurs. Beaucoup de monde ce soir encore. Des ennemis partout. Trois stations plus tard, arrivée à Saint-Charles. Jeanne regarda sa montre et vérifia que son sac était bien fermé. Puis elle sortit de la verrière et se rendit sur le quai N, à l'extrémité de la gare. Le train n'allait plus tarder. Celui de 17h36, la fameuse ligne de la Côte Bleue. Marseille-Miramas, via Port-de-Bouc. La BB 67400 arriva lentement, traînant derrière elle sa rame régionale encore vide. Normal, Saint-Charles était son point de départ. Étrange de voir cohabiter le TGV ultramoderne avec cette locomotive diesel, sortie tout droit d'une autre époque. Les portes s'ouvrirent, et comme toujours, elle fut dans les premiers voyageurs à grimper à l'intérieur. Elle s'asseyait chaque soir à la même place, sa place, tout au fond du dernier wagon. Comme à l'école lorsqu'elle s'asseyait au fond, tout au fond de la classe, là où les autres ne pouvaient la voir. Dans le train aussi, elle avait sa place, sauf les soirs où elle arrivait en retard. Mais aujourd'hui, elle était à l'heure. Alors, elle prit possession de son territoire et posa son sac entre ses pieds. Elle regardait le quai, le front posé contre le plexiglas. Les voyageurs arrivaient progressivement. Certains chargés, d'autres non. Certains pressés, d'autres non. Jeanne les observait, les jugeait sur leur apparence physique, essayant de deviner ce qui pouvait bien les tourmenter ou les faire sourire. Et le wagon se remplissait doucement. Beaucoup de visages connus, comme le matin. Les habitués du Marseille-Miramas. L'été, il y avait aussi quelques touristes. Mais là, on n'était encore qu'au mois de mai. Entre gens du coin. L'heure du départ sonna enfin. Un soubresaut et le monstre d'acier qui prend son élan sur les rails. Jeanne continua à regarder le quai jusqu'à ce qu'il disparaisse. Toujours les mêmes tags, sur les mêmes murs et derrière les mêmes immeubles. Elle pensa soudain aux gens qui vivaient là, si près des voies ferrées, bercés nuit et jour par le va-et-vient incessant des trains. Comme elle, qui habitait aussi près d'une gare, celle d'Istres, si petite comparée à Saint-Charles.